Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service, comment lutter contre les discours tribales et de la haine en RDC. Nous abordons cette question tout à l'heure avec nos deux invités, professeur Augustin Mouindambali, historien des mentalités, et aussi Henri Christian Longenja, secrétaire exécutif de collectif 24. Vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez réagir, n'hésitez pas à composer les 081-890-6394-09-716-6394. Alain Goy est bel et bien toujours là, la mise en note à Timapour pour la réalisation et coordination de ce magazine, présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Les discours et les déclarations à caractère tribal et de la haine ont refait surface depuis un certain temps en RDC. Au quotidien, on assiste de plus en plus à un regain des discours de la haine tribale exacerbés par certains leaders d'opinion publique, que ce soit ici à Lubumbashi ou que ce soit ici à Kinshasa, je dis pourquoi pas aussi. On l'a vu à Lubumbashi, les messages de dénigrement tournent le plus souvent autour de la culture alimentaire, de certains habitudes sociales des uns et des autres. Quels sont les dangers du tribalisme et comment lutter contre ces phénomènes sur l'ensemble du territoire national? Je le disais, on en parle avec le professeur Augustin Mouindambali, historien des mentalités, mais aussi Henri Christian Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24. Mais nous avons déjà en ligne le professeur Augustin Mouindambali, historien des mentalités. Professeur, bonjour.
Bonjour Tati Mapouk, bonjour Radio Okapi, auditrice, auditeur.
Voilà, merci à professeur Statima pour bel et bien la réalisation de ce magazine. C'est Marcel Ngombo Balaki à l'antenne. Merci professeur d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ces questions sur comment lutter contre le discours tribal et de la haine en RDC. Cette première question qui me vient à l'esprit, professeur, pourquoi on dirait tout à coup cette résurgence de ce discours tribal et de la haine?
Merci beaucoup Marcel. Comme point de départ, je prendrai ce discours tribal de la haine et l'échec d'une éducation, d'une culture d'éducation qui devrait commencer depuis la famille, en passant par l'école, la société et on peut aussi conclure par les institutions étatiques qui en fixent les règles. Alors, ce discours tribal va à la contre de la notion même de nation. Nation attaque une entité qui regroupe un certain nombre de différences culturelles, mais qui deviennent tout simplement une unité de référence, une unité des valeurs pour permettre à un pays de se développer. Alors, le tribalisme comme valeur négative, il y a aussi le tribalisme comme valeur positive, et je veux le démontrer.
Oui.
Comme valeur négative, le tribalisme prêche l'exclusion des autres. Tout celui qui ne me ressemble pas, tout celui qui n'appartient pas à ma tribu, est un sujet qui me crée l'insécurité, et par ricochet, un sujet qu'il faut absolument exterminer pour qu'on puisse retrouver sa propre liberté, sa propre paix. Alors, c'est pas mauvais d'appartenir à un tribu, à, disons à un clan, à une tribu. Mais ce qui est mauvais, c'est de prendre la tribu comme valeur d'appréciation, comme valeur d'acceptation, comme valeur qui guide, qui commande tout notre être par rapport à d'autres unités qui ne font pas partie, qui n'ont pas la même culture que nous. Ça, c'est une valeur négative. parce que on perd le sens et la foi et objective vérité dans nos appréciations, et on fait intervenir un élément purement externe, la tribu, pour pouvoir apprécier les individus, pour pouvoir apprécier les comportements de tel ou tel autre sujet. Ce tribalisme,
oui,
détruit l'unité de la nation, bloque le développement de la communauté, au lieu que les gens vivent en paix, en symbiose, en interaction. Les gens sont appelés maintenant à développer des discours de haine, parce que tout ce qui ne me ressemble pas ne m'appartient pas. Par ricochet, ça doit faire l'objet d'un sujet de rejet. Nous allons vivre des rivalités permanentes, parce que nous n'avons pas d'autres valeurs possibles qui puissent nous mettre ensemble, et il n'y a que la tribu seulement dont il faut préserver les intérêts. Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a aussi le tribalisme comme valeur positive, moi. Je crois bien en substance. Le tribalisme, c'est-à-dire paix dans les développements séparés, susciter l'émulation. Telle tribu est en avance, a autant de nombre d'intellectuels par rapport à notre tribu. Moi aussi, je vais copier le bon modèle,
oui,
le bel exemple de la tribu, pour pouvoir façonner, élever, accompagner ma tribu dans l'accession de responsabilité, dans la réalisation de certaines missions sociétales. Ça, c'est un tribalisme qu'on appelle un tribalisme fondé sur la discrimination positive.
Positive, oui.
Celle-là n'est pas du tout mauvaise. Voilà les deux aspects d'abord des tribalismes.
Oui.
C'est-à-dire, quand on dit les tribalismes, c'est l'isme qui vient déranger.
Oui.
La tribalité comme valeur de référence pour émouvoir, pour propulser, pour pousser les autres entrées en compétition n'est pas du tout une mauvaise chose. Moi, je ne peux pas régner ma tribu. J'appartiens à une tribu bien déterminée. Cette tribu peut être en compétition avec une autre tribu dans le bon sens.
Oui.
Cela va nous servir de tremplin.
Et c'est d'ailleurs une richesse pour une nation.
Une richesse énorme, mais les gens ignorent l'importance. Et vous aurez vite observé,
oui,
que dans le chef d'une classe intellectuelle de haut niveau, le concept de tribu ne compte pas. D'ailleurs,
oui,
regardez en Europe. En Europe, on ne parlait pas de tribu. En Europe, le terme de tribu a été remplacé par le népotisme. Le népotisme, on peut encore tolérer, hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même.
Oui.
Je dois en engager 5, mais parmi les 5, il y a quand même 2 provenant de ma propre tribu. On peut encore tolérer. Mais quand vous prenez sous le 5 engagé,
oui,
tous les 5 sont de votre tribu, alors qu'il y a des gens qui sont plus compétents, qui éprouvent une certaine méritocratie, ça devient un péché. Ça devient une antivaleur énorme qui bloque la communauté, qui bloque le développement d'ensemble au profit de l'égoïsme des individus appartenant à la même tribu.
Alors justement, ouais, professeur, ce sujet, c'est comment lutter contre les discours tribal de la haine en RDC. Vous avez parlé de quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. Vous avez parlé de cette valeur négative lorsqu'il s'agit du tribalisme avec l'exclusion des autres qui détruit l'unité, ouais, d'une nation alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Alors professeur, comment faire face à ces discours de la haine? Comment faire face à ces discours de la haine? Comment faire face à ces discours tribal? Parce qu'on n'en a pas besoin. On a plutôt besoin de l'unité de la nation.
Oui, comme j'avais dit Marcel Ngoma, moi je crois que le point de départ, c'est l'application de la théorie de Fels.
Oui.
On commence par la famille. C'est dans la famille qu'on ouvre la porte aux autres.
Oui.
Celui-là, il est ton semblable. Il éprouve les mêmes souffrances que toi, en cas de maladie, en cas d'accident, en cas de souffrance. Et cette éducation doit prendre sa genèse à partir de la famille en tant que cellule mère de la nation. Vous avez compris?
Oui.
Il faut que dans la famille, qu'on intériorise les valeurs prônant l'ouverture à l'autre. Notre maison est là, parmi tant d'autres maisons, mais n'est qu'une maison par rapport à d'autres qui l'entourent. Vous imaginez une maison qui irait se planter dans la bourse seule, hein, à l'abri de d'autres logis, et où les parents vivraient seuls. Ils développeraient des sentiments presque qui ne sont pas différents de la bestialité animalière.
Oui.
Hein. Alors, donc, c'est la famille qui ouvre grandement la porte à d'autres, à des voisins. Il me manque un balai, je peux en emprunter à l'autre, quelle que soit son origine, quelles que soient ses affinités culturelles, parce que l'autre est là pour me compléter. L'autre complète ce que je manque en moi, et moi je complète ce que l'autre manque en lui. Alors, ça commence par la famille, les parents qui donnent des bons exemples à leurs enfants, les enfants de voisins viennent rendre visite, et qu'ils soient de telle tribu à telle autre. D'ailleurs, on ne demande pas il est de quelle tribu, celui-là. Oui. Chez nos enfants, regardez bien, c'est un apanage que nous avons hérité d'une mauvaise éducation, des mauvais systèmes de cohabitation. Si vous demandez à nos petits-enfants à l'école primaire, prenons l'exemple à l'école maternelle, Marcel,
oui,
vous êtes de quelle tribu? Il va vous demander, tribu c'est quoi? C'est pas ça.
Exactement.
Nos petits-enfants,
oui, oui,
innocents qu'ils sont, c'est une machination des gens qui ont échoué dans leur vie et qui cherchent les arguments de massue pour détruire les autres qui sont en avance. Et je me souviens ici, j'ai donné un exemple qui m'a beaucoup frappé. Dans mon institution propre, parce que je prêche les questions des valeurs éthiques, j'ai reçu le vice-premier ministre, mon ministre des tutelles, qui est venu visiter nos locaux. Et quand il est arrivé, il a demandé aux agents de se présenter. Chacun, au lieu de donner son nom, préférait décliner ses fonctions. Je suis commis aux relations publiques. Je suis, mais en oubliant les noms. Et mon vice-premier ministre, je ne peux pas cacher son nom, hein, Liaou, Jean-Pierre Liaou, il a repris sa question. Vous ne vous êtes présenté qu'à travers vos fonctions. Mais j'ai envie de connaître vos différents noms pour pouvoir vous identifier. Et je ne savais pas que c'était une espèce de guet-apens qu'il avait posé aux gens qui l'attendaient. Alors, on va reprendre la présentation. On dit tel, ah, je comprends bien, tel, Etobe, tel, Makwe, tel. Et à la fin de la présentation, mon ministre va s'exclamer. Mais moi, je croyais pouvoir trouver des Mwendambali ici. Il n'y en a pas un seul. Ça veut dire quoi? Alors que votre directeur général répond au nom de Mwendambali, il appartient à une entité culturelle bien définie. Vous voyez le ridicule qui nous tue. Ce véné est à nous, mais nous les adultes, surtout les adultes qui ont échoué, les écoliers qui ont échoué, ce sont eux qui propagent ce véné de tribalisme pour masquer leur insuffisance.
Voilà, professeur, vous avez parlé de la famille, vous avez parlé de l'éducation, mais il peut arriver aussi qu'on peut avoir peut-être on a grandi avec une bonne éducation pour ce qui est tout ce qui est lié à la tribu, mais à un moment il y a deux fois aussi donc on qualifie des leaders d'opinion qui à un moment essaient aussi de perturber la bonne conscience des gens par rapport à tout ce qui est lié au tribalisme, à la tribu.
Moi je vous l'ai dit, c'est un argument des faibles. Des faibles. On découvre sa tribu quand on n'a pas été à la hauteur de rivaliser avec d'autres.
Oui.
Quand on a été démasqué, quand on a été toujours, disons, classé parmi le mauvais, dans le classement à un endroit qui ne convient pas, que les autres cherchent à se justifier. C'est l'argument qu'utilise, par exemple, une femme et un homme dans un procès.
Oui.
L'argument de massue, ce qu'on appelle l'argument des faibles, ça se termine par le concept. D'ailleurs, moi, mobali yango bando linganga, yango na boyakie. C'est la même chose avec les gens qui échouent. Quand ils échouent, ils cherchent maintenant à se réfugier derrière les faux fuyants.
Oui.
Si j'ai échoué, c'est parce que je ne fais pas partie de la tribu de tel professeur. Vous avez compris?
Donc il faut
si
pas suivre un professeur.
Si je n'ai pas avancé, je n'ai pas eu la promotion parce que je ne suis pas dans son de quelqu'un de son coin. Mais je vous donne l'exemple de mon ministre des tutelles.
Oui, on a suivi.
Quand il a cité seulement ses noms, lui-même il a tiré la conclusion. C'est pas mauvais d'engager quelqu'un de son coin, de sa tribu. Mais il faut privilégier, avantager ce qu'on appelle la méritocratie.
Voilà, professeur, hein? là, le message, si je comprends bien, c'est clair. Vous dites à la population de ne jamais faire attention à tout ce qui est comme discours de la haine, discours tribal. Ça, c'est l'argument des faibles. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est si je comprends bien, c'est ça le message clair.
Oui, les gens qui utilisent ces arguments, c'est, je vous dis, ce sont des faibles.
Professeur,
c'est
on revient.
Duper les gens.
Exactement.
Duper même, je dirais. Doper les gens en disant que voyez-vous, si vous n'avez pas eu ça, c'est parce que vous êtes de tel point. Vous aussi, réveillez-vous.
Réveillez-vous.
Créons une guerre tribale contre tel clan parce que ce clan est en train de nous dominer ainsi de suite. Non, ce sont des messages de faux fuyants.
Professeur,
ça,
permettez.
Oui. Ainsi, Marcel.
Ouais, c'est bien dit, professeur. Permettez que j'arrête un moment avec vous pour accueillir des auditeurs qui sont déjà en ligne parce que le standard est déjà ouvert. Nous avons, restez en ligne, professeur. Nous avons Boumedien qui nous appelle de Lubumbashi et également Samuel Beya qui est à Kananga. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, comment lutter contre les discours tribaux et de la haine en RDC? C'est ça le sujet abordé. Vous pouvez nous appeler au 081-890-6394 au 09-716-6394.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Boumedienne nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Boumedienne.
Oh, bonjour Marcel, bonjour Alain, au professeur qui est sur le plateau.
On vous écoute Boumedienne.
Je commence par la solution, je vais terminer par des exemples. Moi, je pense bien que pour terminer ce problème de tribalisme, ici au Congo en RDC, il faut commencer par mettre les noms originaires à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux. Si le gouverneur est de l'Équateur, le commandant ville doit être de Kisangani, le commandant police doit être de Bandundu, donc du sommet jusqu'en bas. Vous allez voir que cette histoire ne va pas se répéter. Nous sommes mal habitués après le régime de Mobutu. Quand Mobutu était là, on ne connaissait pas qui est qui. Là, c'est peut-être. Je commence maintenant par deux exemples de ma province, là où je vis. Je vis dans le Haut-Katanga.
Oui.
Dans le Haut-Katanga, c'est
Boumedienne, essayez de vous déplacer, la communication se guette, on n'arrive plus à... En tout cas, on vous suit plus très bien, essayez de vous déplacer, peut-être ça va s'améliorer.
Très bien.
Oui. Allez-y maintenant.
Non, ça va.
Bon, allez-y, apparemment ça semble marcher, allez-y. Oui.
Dans le Haut-Katanga, c'est trop et trop, ça déborde même les enfants. Et il y a un monsieur qui peut faire une erreur, l'injure cette Kassai. Donc, le nom Kassai devient l'injure ici au Katanga. Mais moi, je me pose la question. Je me suis posé la question, comme le professeur là, il peut nous aider à nous donner des réponses. Quand on avait six provinces ici en RDC, le Katanga commençait par où et se terminait par où? Ma première question. La deuxième question. Maintenant, le Grand Katanga n'existe plus. Nous avons quatre provinces. Le Grand Katanga est subdivisé. Nous avons le Haut Katanga, tout simplement. Qui est Katangé et qui ne l'est pas? La troisième question. Moi, je me pose la question, puisque c'est un constat que je fais. Si vous allez dans les Katangas, vous allez trouver les gens qui portent le nom de Katanga. Katanga, ils sont nombreux ici au Katanga. Alors, qui sont réellement les Katangas? Et le problème se pose entre deux frères de tribus. les soi-disant Balouba du Kassai et Balouba du Katanga. C'est là où il y a un problème ici au Katanga. Le Haut Katanga, le Haut Katanga où nous vivons, les Balouba du Kassai et Balouba du Katanga ne sont pas originaires pour le moment, puisque la province du Grand Katanga est déjà subdivisée. Nous sommes tous des non-originaires. Mais qui doit dominer l'autre chez autrui? Nous sommes tous des étrangers. Et les deux provinces, les deux tribus là, sont des frères à l'origine. Ils viennent de Sangalubang, tous. Celui-ci est de la fille, l'autre est de l'homme. Mais pourquoi faire cette distinction? Pour dire que l'autre ici, comme toi tu es Kassaïen, tu restes. L'autre, comme il est Katangé, il reste. C'est en vertu de quelle loi?
Voilà, merci.
C'est la question que je me pose.
Voilà.
Je n'ai pas beaucoup à dire.
Oui, merci. Merci. Merci, Boumedien, d'avoir appelé de Lubumbashi. Samuel Beya, vous êtes à Katanga. Bonjour, Samuel.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est à Kinshasa. Samuel Beya de Kinshasa.
Voilà, vous êtes à Kinshasa. On vous écoute, Samuel.
Oui, je salue la pertinence du sujet du jour ainsi que l'invité. Oui, je vois que ici au Congo, nous avons un grand problème. Je ne sais pas. Nous voyons les grandes nations qui ne se développent pas seules. Aujourd'hui, la guerre est en Ukraine. Mais nous, à cause des sanctions que l'Union européenne ainsi que l'Amérique a imposées sur la Russie, nous voyons qu'il y a des conséquences partout dans le monde. Les gens parlent aussi de carburant, d'augmentation des prix de farine. Donc, cela veut dire qu'une nation ne peut jamais se développer seule. On dépend. Chaque nation dépend d'une autre. Mais ici, au Congo, ça devient un grand problème. Mais du jour au jour, les gens sont en train toujours de demander pourquoi on ne parvient pas à relier nos provinces. Nous n'avons pas de route qui nous relie. C'est parce qu'il y a des provinces autres qui produisent les biens. Si elles-mêmes ne peuvent jamais les consommer et terminer, ils veulent aller aussi avec ça dans des pays, dans des provinces autres, ou soit sortir avec ça. Mais aujourd'hui, c'est un problème. On ne sait pas. Nous, on n'a jamais vu une province qui est autonome ici, en République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est seulement les élections. Nous savons que chaque chose a son temps. C'est le cas, dit même la Bible. Nous savons un mandat d'un président ou d'un député, c'est déterminé. Lorsque ce mandat-là dépasse, la personne ne sera pas encore présente. C'est le tour d'une autre personne. Mais je ne sais pas pourquoi, du jour au jour, dans le média, partout sur les réseaux sociaux, il y a toujours des discours tribales. Mais selon la proposition, moi, selon moi, j'avais voulu dire que l'État puisse primer ça. Parce que lorsque l'État ne réagit pas, il y a des lois ici au Congo. Il y a des lois qui priment ça. Nous avons entendu même récemment, il y avait une campagne qui était menée par l'Union. Si ce n'est pas l'Union européenne, ça doit être l'Amérique. On disait non. Comment est-ce qu'on peut réprimer les discours de la haine? Une personne qui doit tenir un tel discours et la personne là a des sanctions. Mais comme il n'y a pas, on n'a pas encore infligé des sanctions, c'est un problème. Et de deux, nous voulons c'est que nos quatre langues nationales ici doivent être étudiées dans toutes les provinces. C'est ça aussi ce qui nous tue. On pouvait être en mesure, je suis ici à Kinshasa, je parle Lingala, je me trouve à Kananga, je parle Chiluba, je suis à Katanga. Ça pouvait aussi quand même se comprendre. Mais si, comme on ne parvient pas à imposer nos quatre langues nationales dans nos provinces, quelqu'un est à Katanga, quand il parle Chiluba, on dit non, il est de Katanga. Mais si quelqu'un était à Katanga et parle convenablement les Lingala, et parle, pardon, les Saïli, on allait dire non, non, il peut être originaire, sans toutefois aller plus loin, parce que c'est en commençant par la langue. Quelqu'un est à Kinshasa, il parle Chiluba, il est Moulouba. Quelqu'un, non. On pouvait quand même imposer par le ministère de l'enseignement primaire qu'on puisse enseigner. Et aussi autoriser la nomination de membres par non-originaires. Les non-originaires, il peut être de telle province, mais il est nommé gouverneur dans telle autre province. On pouvait quand même réduire ça. La question que j'ai à poser à l'invité, c'est de savoir, est-ce qu'il est interdit à un membre, quelqu'un est président, ou il est peut-être un ministre, mais il a son frère qui est compétent.
Oui.
Il mérite un poste. Est-ce qu'il est interdit à peut-être quelqu'un est déjà membre, quand il est déjà dans une institution quelconque, que tous ses frères ne soient jamais engagés, même dans n'importe quelle il veut être au ministère, mais il y a une hérésie financière, on cherche quelqu'un. Lui est compétent. Est-ce qu'il est interdit à celui-là? Il y a une loi qui interdit pour dire
merci.
Que non, comme son grand frère est déjà tel, lui n'est pas encore occupé un poste.
Merci. Merci Samuel d'avoir appelé de Kinshasa. Voilà, je reviens à notre invité, professeur Mouindambali, qui est Augustin Mouindambali, qui est historien de mentalité. Professeur, vous avez suivi tour à tour Boumediene qui a parlé, qui a appelé depuis Lubumbashi. Également Samuel qui vient d'appeler des Kinshasa. Comment vous réagissez? Boumediene, là, il est resté sur le fait que ça sert à rien. Il estime que lorsqu'on est en train de cohabiter, on est deux frères, on a plus intérêt. Il le disait avec une certaine émotion quand même, puisque je pense que il est témoin de cette situation de Lubumbashi, hein, c'est-à-dire qu'on est plus, condamné à vivre en harmonie, hein, à coexister pacifiquement. Absolument. Pacifiquement. Et vous avez également suivi Samuel qui a dit, c'est à l'État, lorsqu'il y a ces genres de discours, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'il faut trouver des mesures de méthode qui montrent qu'on ne plaisante pas avec cela. Comment vous réagissez, professeur Mouindambali?
Merci beaucoup, Marcel. Bon, il est vrai que j'aimerais commencer par la préoccupation du dernier auditeur.
Oui.
Qui dit que c'est mauvais de pouvoir engager un frère quand on voit qu'il est compétent, ce n'est pas du tout mauvais. C'est pour cela, dans des civilisations bien avancées, bien structurées, on préfère mettre un test de sélection pour départager les candidats. Parce qu'après tout, si c'est vous-même qui devez prendre la décision concernant votre propre frère, vous risquez de les choisir au détriment de plus méritants. C'est parce que le critère d'appréciation objective fait défaut. D'où la nécessité, même les propres frères de ma tribu peuvent participer à un concours. Mais ces concours, je n'en sois pas l'auteur des corrections. Que j'ai pris une autre équipe, d'ailleurs, il est recommandé, c'est pour éviter les conflits d'intérêts. Quand c'est votre propre enfant qui se trouve dans votre classe, je suis un professeur d'université, j'ai prouvé cet exemple-là.
Oui.
Au moment où il passe son examen, c'est pas vous qui devrez, en principe, l'interroger. Il faut vous désister pour permettre soit à un autre collègue et professeur du même domaine de pouvoir venir l'interroger. Nous l'avons fait plus d'une fois dans notre propre vie. À l'ENA, j'ai été lié par un professeur, un directeur général, je ne citerai pas son nom, et sa fille était dans la promotion que j'encadrais. Alors, au moment de l'examen, on m'a demandé de pouvoir intervenir. J'ai dit, pour des raisons personnelles, étant donné les relations existantes entre son papa et moi, je préfère m'abstenir et demander à d'autres collègues d'interroger la personne. Et l'autorité en question, elle était de ma tribu. Mais j'ai évité que mes sentiments, mes subjectivités soient versés dans ces dossiers-là. Que j'ai une conscience dérangée, voilà, c'est la fille de telle, c'est une nièce, c'est par alliance, il fallait que je lui donne quand même un coup de pouce. Voilà comment on peut l'inviter, on peut éviter ce genre de comportement.
Oui.
Et j'ai dit bien, il n'est pas mauvais de recevoir même deux, trois de sa tribu dans une structure, à condition que ça passe par des mécanismes d'appréciation qui sont objectifs et corrects. À ce moment-là, tout soupçon de tribalisme va s'évaporer, va se liquider. Voilà un peu ma première proposition. Alors, au sujet d'autres auditeurs qui ont reconnu quand même l'importance de vivre en symbiose quand on appartient à plusieurs tribus, j'adhère à ce genre de propositions. Il faut la convivialité, il faut accepter la différence qu'il y a entre les hommes et essayer de prendre cette différence non pas comme un handicap mais comme un moyen de pouvoir s'enrichir, de pouvoir faire face aux défis que nous oppose le monde. Alors, pour les autorités originaires des provinces. Je crois que je suis de cet avis. Je suis tenté d'être de cet avis, parce que c'est un passage obligé. Vous avez vu, quand il s'agit des gens qui viennent d'ailleurs, il y a moins de problèmes qu'avec les natifs de la région ou de l'espace administratif en question.
Oui.
Parce que même au niveau interne, regardez bien, quand c'est telle tribu qui est au pouvoir, qui est le gouverneur, absolument, il y a l'autre tribu concurrente en termes d'importance, en nombre d'habitants, en nombre de sujets, qui doit revendiquer absolument le deuxième poste. Et puis, vous allez descendre, le gouverneur lui-même ne sera pas accepté par tout le monde, et bien qu'il soit de telle tribu, il y a un élément qui intervient encore, un élément qui introduit une différence, c'est l'élément de « il est de telle chefferie et pas de telle autre. Il est de tel secteur. » Et le combat va continuer à aliser l'espace administratif dans des problèmes qui n'ont pas de fondement juridique. Tout simplement parce que c'est lié au sentiment des sujets, lié à l'égoïsme, j'ajouterai ces mots-là, il ne faut pas l'oublier, à l'égoïsme du sujet. C'est pour ça qu'on dit que le tribalisme est une antivaleur qui vous empêche d'apprécier ce qui est bon au profit de ce qui est mauvais. Donc, voilà, moi, je crois que les problèmes des provinces, des non-originaires, des autorités non-originaires, ça peut être le premier passage, juste à ce que nous obtenions une certaine maturité, et là, nous devons accélérer sur la pédale pédagogique d'encadrement de la population pour montrer, manifester, c'est pour ça qu'il y a des compétitions sportives. Oui. Il n'y a pas une seule équipe qui est composée par les gens de la même tribu. On voit, il y a le meilleur de telle tribu, le second de telle autre tribu. On doit les mettre ensemble pour constituer une équipe qui doit gagner. C'est cet esprit qui manque dans les chefs de la plupart des Congolais. Mais parce que moi, je me vois très mal ici, je le regrette, je vais vous le dire. Mes enfants ne connaissent pas même mon dialecte. Moi-même, je ne connais pas le dialecte de mes parents. Hein? Vous voyez les défauts, parce que j'évoluais dans une cité minière où tout le monde, même les Rwandais, les Burundais, étaient à Kamituga, à Mwenga, dans les gisements minières. Et c'est comme ça, on les prenait aussi pour nos frères. Vous comprenez? On ne regardait pas l'origine, la tribu, ainsi de suite.
Merci, ouais. Professeur Augustin Mwendambale. On va s'arrêter à parler avec vous et surtout avec ces bel exemple. Vous avez parlé de l'équipe. Hein. Lorsqu'on voit ce qui se passe avec l'équipe de Léopard, on parle pas des tribus. Hein. Ça c'était un bel exemple. Pour ça, j'espère que tous ceux qui vous suivent ont retenu rien qu'en prenant l'équipe de Léopard, comment tout se met uni derrière l'équipe de Léopard, derrière nos Léopards. On dit pas que c'est joueur de telle tribu. C'est pas ça qui nous concerne. C'est plutôt exactement. Professeur, merci en tout cas d'avoir été de notre et surtout au plaisir de vous retrouver prochainement. Je rappelle que vous êtes Augustin Mwendambale, historien des mentalités. On espère vous retrouver prochainement.
Voilà Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble des correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme. Vous apportez l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Henri-Christian Longinja, c'est exécutif de collectif 24, notre deux invités, il est déjà en ligne. Henri-Christian Longinja, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, merci de nous avoir rejoints pour aborder avec vous aussi cette question, comment lutter contre les discours tribaux et de la haine en RDC. Vous êtes sans ignorer que depuis quelques temps, il y a tous ces discours de la haine tribale qui sont parfois, il y a ces regains de discours de la haine tribale qui est parfois exacerbé par certains leaders d'opinion. On l'a vu ici à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Alors, comment lutter contre ces discours tribal de la haine. Et comme on a évoqué avec le professeur Augustin Mwenambali qui vous a précédé, il a d'abord parlé il faut commencer d'abord au niveau de la cellule mère même qui est la famille, hein, c'est-à-dire commencer déjà à éduquer au sein de la famille comment l'attribuer plutôt une richesse plutôt que ça soit un facteur de problème, un facteur de la partie des conflits, hein, entre les Congolais, on n'en a pas besoin. Et là, il faut vraiment se mettre ensemble pour, en tout cas, éviter que ce regain de discours de la haine continue à prendre de l'ampleur. C'est pas bon. Il a même dit, cela détruit l'unité de la nation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces discours de la haine et comment faire face à ces discours pour barrer la route à tous ces actes ou ces discours de tribal et de la haine?
Oui, effectivement, d'ailleurs, à la suite même du prof, je pense qu'il a donné un bel exemple en évoquant l'état de Léopard du football. Oui. Et j'ajouterai à cet exemple aussi l'exemple de la musique. Aujourd'hui, lorsque on sort du Congo, on arrive quelque part, que je sois Mongala, que je sois Swahili ou Moloba, tout ça, je viens du Congo, Fali, Terminien, Kofi, ainsi de suite. Donc, tout le monde se retrouve derrière les artistes et tout le monde est fier. Et je pense que de la même manière qu'on est fier lorsque nos équipes de football sont en train de jouer avec l'étranger, nous sommes fiers avec nos artistes, nous devrions aussi être fiers avec notre sœur patrie, le Congo. Et à ce moment-là, si nous disons que la patrie c'est le Congo et que je dois rester en tant que Congolais et le défendre et tout ça, à ce moment-là, tous ces clivages, je pense que ça doit cesser. Et c'est regrettable que ces sentiments des invitations à la haine tribale, le tribalisme, puissent prendre beaucoup d'ascenseurs pendant ces temps ici où nous sommes à la veille des élections, ce qui n'est pas du tout normal. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'au lieu que ce soit la simple population, maintenant ce sont des leaders qui prennent les devants pour inciter les gens à ce genre de discours, et c'est vraiment regrettable. J'estime que pour mettre fin à ça, en plus de ce qu'on a dit là, il faut que la politique des non-originaires puisse être appliquée dans la gestion de la chose publique. Mais il est aussi important, je me souviens à l'époque de Mobutu, il disait, on vous nomme un ministre, je vous donne 2-3 de votre province et votre région à l'époque, et que si je trouve au-delà, c'est du tribalisme, vous êtes dedans. Moi, je pense que ça doit aussi commencer par ça, par ceux qui nous dirigent, dans les cabinets, dans les services, dans des promotions, tout ça, qu'on puisse dire que non, lorsque je dirige pour tout le Congo et qu'il faut que je donne la chance à tout le monde. Ça va en quelque part atténuer un peu ces sentiments-là, que certains tribus puissent se sentir délaissés, certaines provinces puissent se sentir délaissées et qu'on donne priorité à telle ou telle autre province. Donc ça, c'est de la part de ceux qui nous dirigent. De l'autre côté, il est aussi important que nous, les acteurs sociaux, et par terre sociaux, je vois nous, la société civile, je vois les églises, nous puissions aussi transmettre un message d'unité. Un message qui montre que nous sommes un et que cela doit se refléter même dans nos organisations. À tel enseigne que lorsque je suis par exemple au Katanga, je sais que l'organisation est au Katanga et qu'à ce moment-là, avec les amis, nous parlons le même langage et ça va renforcer cette unité-là. À l'époque, il n'y avait pas ce clivage. Je pouvais me déplacer, je quitte l'Équateur, je vais au Katanga, je vais à Goma, je vais partout. Je me sens toujours à l'aise, je me dis, je suis au Congo. Mais à un certain moment, on commence à sentir que, non, ça c'est les Baouta, ça ce sont les gens qui sont venus nous envahir, ça ce sont des gens qui font que tout devient chaud, ainsi de suite, ce qui n'est pas bon. Au niveau aussi des écoles,
oui.
Nos programmes d'éducation civique, il faut aussi qu'on réforme cela. J'ai l'impression que nos programmes d'éducation civique et morale, même les textes, certains textes des Français, à quoi ça servirait
de nous donner les textes de Napoléon, les textes de ces sources-là, au lieu de composer des textes qui contribuent d'abord à la moralisation, à l'éducation civique, au patriotisme, pour que lorsque même l'enfant évoque ces textes-là dans des récitations, tout ça, quelque chose entre. Et en plus de cela, ça permet à ce que, au niveau des écoles, oui, au niveau des universités, on puisse réformer cela, qu'on ait tous ces programmes-là. Malheureusement, dans ces pays, on avait un ministère d'initiation à la citoyenneté, mais ce n'était qu'un ministère de nom. On n'a pas senti comment on a vraiment initié les gens à la citoyenneté congolaise pour que je puisse me dire que je suis congolais, je suis fier d'être congolais. Et que partout où je suis, les Congolais, c'est mon frère, il est de même lignée que moi et que nous devons être unis. Donc,
alors vous avez,
au niveau des écoles, c'est important qu'on puisse reformuler. Et parce que les familles, oui, c'est bon, l'éducation familiale, mais il faut savoir que les familles, pourtant, comme je disais, ce que les profs disaient par rapport à des familles, les cellules nucléaires, mais moi je pense que la base même des séparations, c'est ces cellules nucléaires. Parce que dans nos familles, parfois, on nous apprend, moi, tels gens, ce sont des pygmées, vous ne pouvez pas collaborer avec eux, ce sont des sous-hommes. C'est dans les cuisines, parce que la famille, c'est le reflet même de la cuisine.
Alors, Henri Christian, on a parlé de la famille, on a parlé de l'éducation, mais il faudrait également qu'on puisse parler de la société civile, qu'on puisse également parler de partis politiques. Tous ces gens qui animent des partis politiques ont aussi un rôle à jouer pour sensibiliser la population par rapport à tout ce qui a comme discours de la haine ou un discours tribal, parce que ça va rien apporter au pays. Ça sera plutôt, comme l'a dit le professeur, vraiment mettre en mal l'unité nationale.
Oui, effectivement, c'est comme ça que j'étais en train de citer. Je disais les écoles, j'ai parlé de nos sociétés civiles qui devront assumer vraiment nos responsabilités dans la conscientisation, dans l'unité nationale, et un discours de cohésion et non un discours de haine. Oui. Les partis politiques aussi. Et je pense bien que même des lois qui régissent les partis politiques, il faut qu'on y veille sur ça. Oui. Parce que j'ai l'impression aussi que nos partis politiques se confondent à des partis provinciaux ou des partis tribaux, si longtemps que le numéro un ou le fondateur, le président fondateur est de telle ou telle province, et du coup c'est tout le monde de cette province ou de cette tribu-là qui se retrouve concerné, ils pensent que c'est leur parti, à tel enseigne que vous allez voir, par exemple, lorsque je prends à l'époque MPR, on dit non, c'est les Bangas là, et la plus majorité, c'est les Bangas qui se défendent. Bon, bien sûr, à l'époque, c'était tout le monde parce que c'était parti État. Mais vous allez voir que vous prenez, par exemple, l'UDPS, on a dit non, comme le leader maximum est Kassayen, c'est plus les Kassayens qui s'approprient que l'UDPS, c'est nous. Et vous allez par l'eau, non, c'est Bandoudou, c'est nous. Et tel parti. Donc, les gens s'identifient à des origines culturelles des leaders, et c'est ce qui n'est pas normal. Je pense aussi que même dans les lois, il faudrait qu'on puisse vraiment veiller sur ça, que le parti doit être national et qu'il est anodin de voir que le parti soit approprié par une province parce que c'est l'originaire, la province d'origine du président fondateur. Et que dans les cellules, il est important qu'on puisse vraiment à insister sur ça, parce que l'escalade de discours de haine que nous voyons aujourd'hui, maintenant on constate que ça provient des hommes politiques, des membres des partis politiques, mais curieusement on n'a pas senti le son des cloches de leurs leaders de ces partis qui fustigent cela et qui condamnent. C'est comme si on dit le silence est là coupable. Dit beaucoup, ça veut dire qu'ils acceptent ces discours et ce qui n'est pas bon.
Voilà, ce qui n'est pas bon, oui.
Une charge pour nous, société civile, d'insister même auprès des partis politiques, parce que je pense que lorsque nous parlons de l'unité nationale et que nous parlons des discours de haine, l'origine des discours de haine, le bastion, ce sont dans les partis politiques. Et qu'il faudrait vraiment travailler avec les partis politiques pour que ces discours changent. Parce que la société civile ne véhicule pas généralement ce genre de discours. Les églises, je ne pense pas. Mais c'est plus dans les partis politiques qu'il faut travailler.
Henri Christian, oui, oui.
Il faut que la justice aussi fasse son travail. Et que lorsqu'on a des discours incendiaires, des discours qui sont de nature à inciter les gens à la haine, à la rébellion, c'est une menace à la sûreté de l'État, une menace à l'unité. Et que la justice aussi doit faire son travail. Mais j'estime qu'au-delà de tout ça, nos dirigeants aussi doivent être des modèles pour montrer que je suis là, ce n'est pas pour telle tribu, je suis pour le Congo ou pour toute la province et que je dois tenir compte de toutes les tendances. Et à ce moment-là, je pense que par des exemples, on peut vraiment atténuer cette situation.
Henri Christian, on va prendre, accorder la parole au dernier auditeur qui est en ligne, c'est Katchaï qui nous appelle de Kanyoka, puis on reviendra à vous pour conclure. Katchaï, vous nous appelez de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur,
Marcel, monsieur Marcel, monsieur Marcel, voilà. Oui, Marcel, on vous écoute, Katchaï. Allez-y rapidement, oui.
Oui, merci beaucoup. C'est vrai que j'interviens en retard, mais oui. Le sujet est très important, monsieur Marcel Ngombombara.
Ouais, en une minute, oui.
Oui. Vous savez, pour aussi bien lutter contre les discours tribaux, hein, alors, il faudrait nécessairement éduquer, la masse. Que les gouvernements prennent des initiatives de lutter contre les sous-développements. Parce que quand certains ressortissants d'une province se trouvent dans une autre, cela crée des conflits et des conflits tribaux. Et parfois, certains avantages que pouvaient bénéficier les originaires profitent aux non-originaires. Cela crée encore des problèmes entre les individus. Moi, je pourrais surtout suggérer au gouvernement congolais. C'est vrai, c'est aujourd'hui même l'homme politique congolais au centre de tout ce que nous connaissons avec les élections. Parce qu'il faut faire la campagne dans son coin, dans son village, dans sa tribu, dans son regroupement. C'est ainsi que quand un homme politique descend dans sa circonscription, il a un discours qui le tient vis-à-vis de la population. Et aussi nos langues. Monsieur Marcel, vous savez, quand je me retrouve par exemple à Kanyoka, c'est au Kasaï. La langue que l'on parle, c'est le Tchiluba. Alors, c'est différent de celui qui, du Katanga, de Kinshasa, qui parle le Swahili, le Kikongo, le Lingala. Ça nous divise. Mais le plus important, c'est l'éducation des masses et faire comprendre à l'homme congolais que les élections ne peuvent pas nous diviser. Récemment, il y avait une loi à l'Assemblée, la loi Sakata, pour le discours de la haine et consorts. On n'avait pas voté cette loi-là.
Merci. Voilà, merci, désolé, Katia, vous avez appelé en retard, vous avez reconnu, mais vous avez dit à l'essentiel, en tout cas pour vos préoccupations. On va conclure avec notre invité, Henri Christian Longueja. Vous réagissez et puis ça sera votre conclusion.
Ok, merci Marcel. D'ailleurs, par rapport à les compatriotes qui viennent d'intervenir tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec son discours. C'est un discours aussi qui renforce toujours ce discours de haine et de la désunion au niveau national. Lorsqu'il dit que les discours des originaires, des non-originaires, c'est justement ces discours-là que nous sommes en train de combattre. Lorsque moi, je suis Mungala, je vais par exemple à Goma ou Katanga, je suis chez moi. On ne peut pas dire que non, parce que moi, je travaille au Katanga, donc qui est originaire de l'Équateur, du coup, je suis non-originaire. Non, je suis congolais, j'ai la liberté de circuler partout et surtout que c'est dans mon pays. Parce que si on continue avec ces discours-là, il y a des microcosmes. On va arriver, par exemple, que nous rentrons, je rentre chez moi à l'Équateur, on va voir il est de quel territoire. Ça veut dire que je ne peux travailler que dans mon territoire. Et si maintenant nous arrivons au niveau du territoire, on va dire il est de quel village ou de quel secteur. Ce qui veut dire que je peux travailler que dans mon secteur. Et non, ce n'est pas ce discours-là. Et je suis désolé, les compatriotes doivent changer. Lorsqu'il dit l'éducation des masses, il faut éduquer les masses avec un discours d'unité, mais pas avec ce genre de discours qu'ils pensent qu'il faut privilégier les originaires par rapport aux non-originaires. Non. Nous sommes un Congo, le Congo doit demeurer uni, oui. Et les Congolais doivent se retrouver partout où il est, sur toute l'étendue du pays, doivent se retrouver. Nous avons des quatre langues nationales, je peux arriver, je ne connais pas parler le Swahili, je ne connais pas parler le Tchiluba, je connais parler Lingala, mais si ça, Lingala ne passe pas, le français je peux parler parce qu'on a une langue officielle, administrative, je peux parler. Donc la communication ne pose pas un problème.
Oui.
Et ce qui est important, c'est l'intégration. Que tout le monde s'intègre et que si on doit puisse voir que nous sommes une famille, nous sommes un seul pays et qu'on ne peut pas développer ces discours d'originaire et de non-originaire. Au contraire, nous encourageons la politique des non-originaires dans les affectations, justement pour pallier à ces genres de choses. Quand Diallo était au Katanga, je pense bien que jusqu'à aujourd'hui, il est resté l'icône là-bas, mais il était de l'Équateur. Donc c'est pour dire que ce n'est pas toujours celui qui est né.
Merci.
C'est quoi la fibre. Voilà. On va demander à tout le monde de rester dans son village et ne plus bouger.
Merci.
Ce ne sera même pas un pays. Donc, merci Martin.
Merci à vous. Oui.
La conscientisation continue.
On retient.
On
retient cet appel à l'unité. Hein, on retient ce que vous avez dit, que nous sommes une famille. On doit rester la grande famille congolaise. On doit vivre dans l'unité. Merci à Henri Christian Longenja. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du Collectif 24. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci à tous les auditeurs.